Alors aujourd'hui, nous allons parcourir une autre épître du même auteur, mais avec des orientations sensiblement différentes, mais en tout cas complémentaires. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, comme dans les manuels d'études, souvent les enseignements sont suivis d'exercices d'application. D'ailleurs, en ce moment, ce sont les examens, que je sache, et c'est un exercice d'application. Est-ce que ce qui a été enseigné est retenu ? Alors, je vous rassure, ce matin, pas d'examen pour personne. Hein. Si nous trouvons dans la majorité des épîtres un caractère d'enseignement, l'épître que nous allons lire ne contient pas une révélation nouvelle, particulière, en matière d'enseignement proprement dit. Mais elle nous montre la pratique, c'est-à-dire l'exercice d'application par Paul des enseignements et des exhortations contenues dans les autres épîtres. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. C'est ce qu'écrivait Paul comme enseignement, entre autres à l'église de Colosse. C'était son enseignement. Combien de fois Paul a enseigné sur l'amour ? Combien de fois a-t-il enseigné sur le pardon ? Après nous avoir dit ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître, maintenant, il veut nous montrer comment il faut faire. Et cela, il va le faire par la pratique, la sienne. Je vous invite à lire l'épître à Philémon. Elle n'est pas très longue. Nous lirons du premier verset au 21. Donc, l'épître à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire ce que tu dois faire, que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Jusque-là. Alors d'abord, juste rapidement quelques mots donc pour Philémon. C'est un homme riche, ou du moins à son aise, puisqu'il possédait au moins un esclave. Il était disciple et compagnon d'œuvre de Paul et il vivait à Colosse. Et sa maison était le lieu de réunion du peuple de Dieu, à tel point que Paul pourra dire et disait l'assemblée qui se réunit dans ta maison. Quant à Onésime, cet esclave fugitif, il s'était converti, comme on l'a lu, par le moyen de Paul, quand il était en prison. Alors Onésime, qui signifie utile, comme chacun le sait, esclave dans la chair et utile à Philémon en son temps, eh bien il méritait encore plus son nom maintenant dans le fait qu'il était devenu frère. Et il apparaît que parmi les hommes, il n'y a pas d'autre nom qui nous soit donné à nous, en tout cas, qui n'ait plus de valeur que celui de frère. Et ce nom, il convient aussi bien au maître qu'à l'esclave. Et ce nom de frère convient bien aussi bien au patron chrétien qu'à l'employé chrétien. Et il convient aussi bien aux parents chrétiens qu'à l'enfant chrétien. Et ça, c'est la merveilleuse égalité en Christ. Frères, voilà ce que nous sommes et ce qui nous est enseigné d'entrée. Alors, cette très belle épître et intéressante épître de Philémon, elle n'exige pas beaucoup d'explications. Je dirais qu'elle se découvre ou qu'elle met en relief les conditions de l'exercice de l'amour et de la pratique du pardon. Elle est l'expression de l'amour qui agit par l'Esprit à l'intérieur de l'Assemblée de Dieu. Et cette épître, elle semble être écrite pour réveiller en Philémon, et donc à nous-mêmes, bien sûr, pour réveiller en Philémon des sentiments que les circonstances de vie ou d'expérience humaine étaient peut-être propres à éteindre dans son cœur. Avant d'aller plus loin, juste une précision, l'appel de Paul en faveur d'Onésime est adressé, certes, à Philémon, comme on l'a lu, mais à toute l'Assemblée, c'est-à-dire que c'est toute l'Assemblée qui doit s'intéresser à ce cher esclave devenu enfant de Dieu. Et d'être, en tant qu'Assemblée aussi, être capable de l'accueillir comme tel, comme enfant de Dieu, et de faciliter la réintégration du pécheur repentant. Ça veut dire un rôle pour chacun, ça veut dire un rôle collectif dans l'acte du pardon et dans l'acte de l'accueil. Alors l'apôtre renvoie Onésime à son maître. Il l'envoie porteur de ce message touchant que l'on vient de lire, mais en fait c'était agir à l'encontre de ce qu'ordonnait la loi. On lit dans le Deutéronome que c'était interdit. « Tu ne livreras point à ton maître un esclave qui se réfugie chez toi après l'avoir quitté. » La loi, en effet, tenait compte, comme le disait le Seigneur dans l'Évangile, de la dureté du cœur de l'homme. Mais les dispositions de cœur de l'apôtre prennent leurs racines dans la loi de la grâce. Et Paul compte du coup sur cette même grâce qui habite en Philémon, qui est dans le cœur de Philémon. Et comme nous l'avons lu, en effet, Paul connaît bien l'amour que Philémon a pour les saints. On le voit au verset 5. Il en a fait l'épreuve même, et on le voit au verset 7. Paul connaît tout ça. Donc voici en quelques mots ce qui trace un peu le contexte et puis les principaux personnages. Alors maintenant, nous voulons évoquer les quelques pensées, ce que Paul veut nous montrer, ce qu'il veut nous faire réaliser, et donc quelles sont, sur le plan pratique, les caractéristiques particulières d'un homme ou d'une femme de pardon. Premièrement, le caractère d'un homme de pardon. Ensuite, les œuvres ou les actions d'un homme de pardon. Et enfin, les motivations d'un homme de pardon. Alors, pour ce qui est du caractère, par exemple, au verset 4 et 5, il dit être informé de la foi de Philémon. Et il prie pour lui. Paul mentionne en quelque sorte la vision qu'il a de Philémon. Et quelle est cette vision qu'il a de Philémon? C'est la vision de l'autre comme un frère en la foi. Cette vision de l'autre comme un frère, c'est très important. C'est primordial. Elle prédispose favorablement son cœur à quoi? À l'affection, à l'amour et au pardon. Mais elle le prédispose naturellement aussi, elle le met dans la situation d'attendre de l'autre, du frère, qu'il mette lui aussi en pratique l'amour et le pardon. Le caractère d'un homme de pardon, ce qui le prédispose à agir en faveur du pardon, ce qui est la base de ses actions, c'est de considérer l'autre comme un frère, comme un être aimé, comme lui, qui bénéficie du même salut, qui a bénéficié du même pardon, faisant partie de la même famille, aimé du même sauveur et d'un même amour, considérer l'autre comme un frère. L'autre trait de caractère d'un homme de pardon, on le voit au verset 6 et 7, c'était de prier et de souhaiter de tout son cœur voir son frère grandir dans la communion fraternelle. Plus encore, Paul réalise l'efficacité de son frère. L'efficacité de son frère Philémon envers les autres frères et sœurs de l'Église. Paul ne fait pas simplement que de reconnaître les œuvres de son frère, mais il les considère comme bonnes, comme venant de Dieu, comme des œuvres efficaces. Quel merveilleux état de cœur que celui de savoir et de se réjouir des œuvres bienfaisantes de son frère. Et l'opposé du caractère d'un homme de pardon, ce serait par exemple de ne voir que les défauts ou les défaillances de l'autre. Mais ça n'existe pas ici. Alors en résumé, le caractère d'un homme de pardon, c'est d'être capable ou du moins d'avoir la volonté de voir à l'autre un frère bien-aimé, de souhaiter voir grandir sa foi agissante, de souligner tout le travail ou tous les efforts d'un frère, ainsi que l'efficacité de son travail au bénéfice des frères et sœurs. Est-ce que j'ai ce caractère d'un homme ou d'une femme de pardon? C'est là la question. Car on parle de pratique. Ensuite, le deuxième volet, ce sont les œuvres ou les actions d'un homme de pardon. Alors, quelles sont-ils? C'est que ces initiatives ont toujours comme origine l'amour, on le voit au verset 9. Faire et être au nom de l'amour. C'est au nom de l'amour, dit-il, Mais sur le plan pratique, quelles sont les caractéristiques des actions d'amour? Comment je peux être sûr que mes actions sont portées par l'amour et non par d'autres sentiments moins glorieux? Comment être certain que mes actions sont ressenties par les autres comme des œuvres d'amour? 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne soupçonne ni ne fait le mal. Ça veut dire que je suis encouragé et exhorté à sonder mes actes d'amour. C'est-à-dire, sur le plan pratique, à les comparer à la parole de Dieu et à 1 Corinthiens 13 pour savoir si je suis sur une bonne voie. Si je suis doté des mêmes bonnes intentions qu'en Corinthiens 13, celles qui veillent à ne faire ni à ne penser de mal ou de malhonnête. Les œuvres d'un homme de pardon. Ensuite, les caractéristiques de ces œuvres d'un homme de pardon, elles sont aussi dévoilées dans le verset 13. Et ce verset nous indique comment l'homme de pardon règle les affaires. Comment il règle les problèmes, les différends? Il le fait au prix de son propre dénuement. Dans sa pénible, voire terrible situation de prisonnier, en fait il est dans l'antichambre, on pourrait dire, dans l'antichambre de la mort, Paul accepte de se démunir de l'aide précieuse d'Onésime, au bénéfice de notre frère. 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son intérêt personnel, mais celui de l'autre. Si Paul n'avait pensé qu'à lui-même, il ne se serait pas privé des services d'Onésime. De plus, Paul veut que l'occasion soit donnée à Onésime de rendre témoignage, et de rendre témoignage dans l'assemblée où il était, et auprès de Philémon, de rendre témoignage des fruits de sa conversion. L'amour que Paul porte à Philémon va plus loin que de lui demander de croire à la conversion d'Onésime. Il veut lui en donner les moyens de le constater par lui-même. Pourquoi? Pour favoriser ou pour réveiller en son cœur des sentiments de miséricorde. Constater la transformation que Dieu est capable de réaliser dans les cœurs d'un frère ou d'une sœur est un riche encouragement. C'est une grâce particulière qui nous est accordée. Et Paul veut faire bénéficier Philémon de cette grâce, de cette bénédiction, de cette opportunité de voir l'œuvre merveilleuse de Dieu dans la vie d'Onésime. Qui n'a pas éprouvé cette joie immense de voir dans un fils, une fille, un père, une mère, un proche, les signes qu'il appartient au Seigneur? Quelle joie! Eh bien, Paul, qui connaît cette joie profonde, veut en faire bénéficier Philémon. Enfin, parmi les œuvres ou actions d'un homme de pardon, il y a le fait que Paul tient compte, non pas seulement de l'intérêt de l'autre, mais en plus, il ne fait pas, Paul, ce qu'il a envie de faire. Mais il tient compte de l'avis de l'autre, en l'occurrence de Philémon. 1 Corinthiens 13, l'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Est-ce que je suis prêt ou prête à tenir compte de l'avis de l'autre? Prêt à ne pas imposer, mais à demander, comme une grâce. Suis-je prêt ou prête à cela? Paul aurait su, voire il aurait pu, d'après ce texte, imposer à Philémon cette œuvre d'accueil par le pardon. Mais il lui demande comment ? Comme une grâce, comme une prière, au moyen d'une prière. Paul fait confiance à Philémon, plus encore, il dit, sachant que tu feras au-delà. Suis-je prêt à faire confiance à mon frère sans rien lui imposer ? Et en m'en remettant tout simplement à l'œuvre de cette même grâce qui habite en lui. Le but des actions d'un homme de pardon est un but essentiellement spirituel. Tous les moyens utilisés le sont au bénéfice d'un but spirituel. Faire entrer Philémon dans une œuvre de pardon effectif, en vue de réconciliation. L'œuvre de réconciliation par le moyen d'un pardon vrai est une œuvre spirituelle, une œuvre qui ne peut être réalisée sans le concours de l'Esprit du Seigneur en nous. Et Paul rappelle ce même lien que Philémon a avec Onésime et le Seigneur, dans le Seigneur. Enfin, pour terminer, après avoir vu donc le caractère et les œuvres d'un homme de pardon, nous allons découvrir les motivations d'un homme de pardon. Et là, ce sont les versets 19 et 21. Et l'on voit là le désir de l'homme de pardon est de faire ressortir ou de mettre en évidence toute la capacité de l'autre à faire le bien. Combien d'entre nous ont besoin de réaliser tout ce que Dieu a la capacité de faire en nous, ce qu'il nous donne la capacité de faire. Et Paul souhaite voir dans cette œuvre de pardon de Philémon toute l'œuvre de Dieu en lui. Paul a comme motivation de faire en quelque sorte que Philémon, à son tour, à cette occasion, puisse réaliser combien Dieu est capable de l'aider à manifester un pardon si difficilement et humainement compliqué parfois à donner. Quelle belle motivation que celle de désirer voir son frère réaliser combien Dieu l'aide personnellement, combien Dieu est capable de le qualifier, de le rendre apte à des actes d'amour, des œuvres d'amour que Dieu a préparées pour lui. Alors l'apôtre connaît et souligne tout le bien qui est en Philémon. Paul vise l'édification de son frère Philémon. Le pardon libère. Le pardon édifie. Le pardon construit. Il participe à l'édification de ma vie d'enfant de Dieu. L'affranchissement de l'ancien esclave et du coup sa joyeuse réception comme frère aura bien plus d'impact, bien plus de portée de cette manière-là, accomplie par Philémon, plutôt que si ça avait été imposé par Paul. Paul a voulu s'en remettre à l'amour et à la grâce de Philémon. Combien de fois est-ce que je voudrais imposer sur le principe biblique ? Alors même que l'humilité et la grâce sont de bien meilleurs chemins, de bien meilleurs chemins. Le vœu de Paul, c'est l'accueil et le pardon du maître Philémon à son serviteur. Un pardon complet, c'est-à-dire un pardon d'amour, d'un amour qui vise la réconciliation, En effet, ce que vise Paul, c'est la réintégration dans sa famille, c'est-à-dire dans son église, de celui qui est repenti, qui s'est repenti. C'est la merveilleuse loi de la grâce et de l'amour de Dieu. Et si personnellement mon pardon n'a pas comme objectif la réconciliation, s'il n'a pas comme objectif la relation retrouvée, alors je dois me poser la question sur la profondeur de mon pardon. De me poser la question sur la réalité et donc sur l'efficacité de mon pardon. Dieu, dès après sa chute, n'a pas visé d'autre objectif que la réconciliation avec sa créature. Il n'a pas désiré autre chose que la relation retrouvée avec sa créature. Ainsi, Paul imite ou applique, exercice d'application, c'est-à-dire qu'il met en pratique la loi de Christ dans la lettre à Philémon, allant dans sa requête jusqu'à prendre à son compte les dettes et on pourrait dire les fautes d'Onésime. Les motivations de Paul sont celles d'un homme de parole. Et comme on a lu ce verset en début de notre partage, voilà en quoi Paul a démontré des entrailles de miséricorde. Voilà comment Paul a démontré toute sa bonté. Voilà comment Paul a démontré son humilité par cette lettre écrite à Philémon. Alors en conclusion, le pardon ne procède pas de l'obéissance au fait de pardonner, mais il est réellement un fruit de la grâce en nous. Et ce que Paul veut faire réaliser à Philémon, c'est les grâces de Dieu dans sa vie, en lui donnant la capacité d'octroyer ce pardon et cet accueil. Le caractère d'un homme de pardon, les œuvres d'un homme de pardon, les motivations d'un homme de pardon, que nous puissions les uns et les autres demander à Dieu de nous doter de telles caractéristiques, de nous rendre capables de telles œuvres et de nous doter de telles motivations dans notre vie de famille et dans notre vie d'église. On veut prier. Seigneur, merci de ce que tu as voulu encore nous montrer sur le plan pratique par Paul. Nous te prions effectivement, notre Dieu, de nous doter de manière personnelle de ces caractéristiques des hommes et des femmes de pardon. Merci parce que dans ta parole nous nous trouvons tout, ce qui est à apprendre, ce que nous avons à apprendre, ce qui est enseigné, mais nous y trouvons aussi ce qui est à pratiquer. Et nous voulons retenir, Seigneur, pour nous-mêmes, cette pratique de Paul, que dans notre Église soit manifestée la communion fraternelle, l'accueil, l'amour et le pardon. À toi la gloire, notre Dieu. Amen.